Alix Soler-Alcaraz, notre invité de Radio Barque aujourd'hui, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste audois, je le rappelle et je le précise. Alors vous venez de nous rappeler un petit peu les circonstances dans lesquelles vous avez été reconduit. L'avenir, bien entendu, est devant vous, comme aurait dit la Palice, mais vous avez à gérer, si je puis dire, le fait que vous avez été élu à la majorité, évidemment, mais avec un candidat qui avait une sensibilité différente. Et bien entendu, pour vous, le défi aujourd'hui, c'est d'arriver à une ligne unitaire, comme c'est votre fonction et comme c'est votre mission. Alors, comment voyez-vous à l'avenir le socialisme dans l'Aude, mais évidemment au niveau national, puisque rappelons que dans un pays centralisé comme la France, un parti est toujours national, enfin, en règle générale. Mais je rappelle aussi que le Parti Socialiste, malgré son très mauvais score au niveau national, a encore une présidente du département, qui est bien élue et bien élue, une présidente de la région socialiste également, qui est elle aussi reconduite et bien élue. Alors il y a une espèce de contradiction que vous devez gérer là.
Alors, il y a beaucoup de questions hein, dans votre beaucoup d'éléments dans votre question. C'est d'abord pour répondre un peu dans l'ordre. Hein, d'abord sur la question de la fédération et de l'avenir de notre fédération. Moi, je crois que si les militants socialistes m'ont fait confiance en majorité au Congrès, c'est parce que j'ai une manière de fonctionner, une méthode de travail et un caractère hein, qui fait que je suis plutôt quelqu'un qui cherche les convergences entre les uns et les autres, qui suis pas dans un état d'esprit clivant, sectaire. Et c'est vrai que ça, je pense que ça peut faciliter les choses pour la suite. En tout cas, moi, c'est ma volonté d'aller rechercher la cohésion des socialistes par-delà leurs différences de sensibilité. Qui se concentre finalement surtout sur la stratégie à adopter pour un même objectif. En réalité, quand on fait le bilan du congrès qu'on a vécu au niveau du Parti Socialiste, sur le fond, on dit à peu près, on porte à peu près les mêmes idées, le même projet, la même vision de la société. Je crois que ça, il faut le souligner. C'est important pour converger ensemble et avec toujours ce même objectif de remporter des victoires, notamment au niveau national, parce qu'on voit bien que c'est ce qui pêche le plus aujourd'hui dans notre formation politique. Et puis la question centrale, c'est comment on y arrive. Et bon. Au niveau national, en tout cas, la stratégie, elle a été quand même tranchée, c'est-à-dire que l'enjeu de l'union de la gauche, là, tout le monde s'y retrouve, il est là. Je crois qu'on est tous conscients, en tout cas les socialistes et à gauche, que l'union de la gauche est essentielle pour à la fois combattre la politique que Macron mène, donc une politique néolibérale au niveau de l'État, mais aussi l'extrême droite, à la fois au niveau national et dans notre territoire.
Oui, on comprend bien que l'union, c'est déjà ne serait-ce que pour faire du nombre, ça fait partie notamment de la démocratie. Oui. Mais ce qu'on a entendu et ce que j'ai entendu à ce même micro d'ailleurs auprès d'un certain nombre de socialistes audois, c'est que le problème de la NUPES, c'est pas forcément la NUPES en elle-même, mais le problème d'un homme, pour le nommer Monsieur Mélenchon, qui a parfois des comportements tout à fait excessifs. Et pour citer clairement, par exemple, le sénateur Sébastien Pla me disait il n'y a pas très longtemps, oui, pour moi, Mélenchon, c'est un problème de s'allier avec une personne qui a des déclarations parfois aussi outrancières.
Oui, mais il faut nommer les choses. Effectivement, je suis d'accord avec beaucoup de socialistes qui considèrent que le problème ne vient pas de la NUPES ou de la NUP, enfin on dit ce qu'on veut, ou de l'union de la gauche et des écologistes plus largement. Ça, c'est pas ça le problème. Effectivement, l'image et la figure de Mélenchon a posé question à de nombreux militants socialistes, c'est peu le dire.
Et le courant passe pas pour un certain nombre.
Oui, mais parce que c'est une personnalité. Je pense que c'est une personnalité qui est très clivante dans ses prises de position, dans son comportement, qui fait pas forcément du bien à la fois à la gauche, mais mais aussi aux insoumis eux-mêmes, mais je vais pas parler pour eux, mais je pense que c'est ce que j'observe. Après, je vais pas passer non plus mon temps, moi, à défendre ou à accuser Mélenchon de tous les maux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler des mots MAUX de notre temps, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit aujourd'hui et les difficultés que rencontrent les gens, et puis la menace de l'extrême droite. Donc il faut faire attention, moi je crois que quand on parle de l'avenir de la gauche, il faut être très prudent, je pense, sur la manière dont on pose les problématiques. Moi ça m'intéresse de discuter et de construire avec des personnes sur lesquelles avec lesquelles je partage les mêmes valeurs et un même objectif. Et je suis convaincu que les écologistes, les communistes et un certain nombre d'insoumis, que ce soit au niveau national ou sur le territoire, on peut construire des choses ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on accepte tout de nos partenaires politiques ? Non. D'ailleurs, on n'est pas dans la même formation politique. Donc, on n'est pas absorbés les uns les autres. Et je crois qu'il faut surtout veiller à ne pas donner cette impression d'une absorption, là, d'une fusion de tous les partis politiques de gauche dans quelque chose qui serait qui serait uniforme, quoi. Voilà. Donc, moi, le message qui a été posé au moment au congrès du Parti Socialiste, c'est la volonté de dire le Parti Socialiste, il a un rôle, une responsabilité centrale dans l'avenir de la gauche et au cœur de la gauche. Donc on se place au cœur de la gauche, on discute avec tout le monde, mais on considère qu'on doit être les meilleurs, qu'on doit faire les efforts les premiers et derrière d'agir de manière à ce qu'on entraîne avec nous un mouvement suffisamment fort pour renverser la table demain, notamment dans les élections nationales, et si possible autour de nous. Enfin, je crois que chaque partenaire politique a envie d'être le premier, le meilleur et d'entraîner autour de lui. Mais ça se verra
quand on veut une majorité, c'est ce qu'il faut, évidemment.
Ça se verra plus tard. Enfin, moi, je préfère ne pas être dans l'incantation. Je suis pas venu là ce matin pour vous dire c'est nous les meilleurs et les autres devraient se mettre derrière nous. Et juste de l'incantation, ça sert à rien. Moi,
donc
je
vous êtes
dis,
dans une phase de construction et de négociation nouvelle,
oui,
en quelque
parce
sorte.
Parce que avoir du dialogue et construire des choses, notamment à l'Assemblée nationale, pour porter des combats communs, moi je trouve ça très intéressant. La question c'est ce qu'on en fait derrière. Et comment les socialistes arrivent à reprendre la main, en tout cas sur le territoire au niveau local, parce qu'on sait très bien d'ailleurs que face au Rassemblement national, face à l'extrême droite, finalement, comme force politique suffisamment puissante sur le territoire, dans l'Aude, pour porter le fer, pour porter le débat démocratique et combattre sur le terrain des idées, on attend les socialistes.
Justement, vous faites allusion au Rassemblement national qui, ça n'est un secret pour personne, a aujourd'hui 3 députés sur le département, 3 députés qui ont été d'ailleurs bien élus, il n'y a eu aucun recours, aucune contestation à ce niveau-là, sur le plan des votes. Mais, par exemple, pas plus tard que ces jours-ci, le député de la circonscription de Narbonne, Frédéric Falcone, émettait un communiqué dans lequel il regrettait qu'en tant que député, au salon de l'agriculture où l'Aude tenait un stand, il n'a pas été invité ou il a été mal reçu. Alors qu'en est-il exactement ?
Alors je vais avoir du mal à répondre à la place des principaux concernés, notamment la présidente du département,
mais c'est un comportement qui est évoqué là.
Non mais alors, moi j'ai beaucoup de mal là avec la manière dont les députés audois, Rassemblement National avance dans leur mandat depuis le départ, parce que ça fait à plusieurs reprises qu'on entend cette petite musique de victimes, d'être mal reçu, d'être pas accepté, alors qu'en fait quand on ouvre la presse on se rend compte que ils sont acceptés quasiment partout dans le territoire, tous les élus locaux leur ouvrent les portes. Et puis on a vu passer un certain nombre de remarques, voire de menaces, d'intimidation sur où on peut parler de pression finalement, à la fois vis-à-vis de la presse et vis-à-vis des élus locaux sur ces fameux comportements qui ne seraient pas adaptés. Et moi je le dis avec force, parce que je crois qu'on est face à une problématique qui est nationale, sur un comportement, sur des méthodes qui sont réfléchies est tout à fait cohérente, c'est-à-dire de multiplier des formes de, je mets des guillemets, de coups de pression vis-à-vis des élus locaux ou de la presse locale de manière générale, ça produit quoi derrière? Ça peut produire de l'autocensure, un manque de débat démocratique et d'adversité, parce que c'est pas parce qu'on est député élu de la République, et moi je respecte ils sont légitimes à être députés, hein, personne ne remet en cause leur élection, pour autant, moi je souhaite que l'on puisse les combattre sur les idées, et notamment lorsqu'ils ne votent pas l'augmentation du SMIC, lorsqu'ils ne votent pas la constitutionnalisation de l'IVG, sur des
Ah,
sujets comme
Monsieur
cela.
Falcon a voté pour.
Oui, mais
Mais
bon,
c'est
la
l'exception par
majorité,
rapport aux
oui,
autres.
l'exception qui confirme la règle, voilà, qui est de tous les autres rassemblements nationaux qui se sont élevés contre ce droit que l'on voulait rendre constitutionnel. Bon, moi je crois que on a le droit dans notre pays de porter la contradiction et le débat politique, et il le faut, et notamment vis-à-vis de l'extrême droite de manière générale, qui utilise d'ailleurs ce type de méthode un peu partout, hein. On a vu Trump avec sa multiplication des procès aux États-Unis, c'est pas un hasard, quoi,
Oui,
hein, cette manière de
c'est
fonctionner. Bon, voilà.
inverser la logique en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Et de toujours se rendre victime tous les 4 matins, on ouvre la presse, ils sont victimes, ils sont victimes. Bon, ça va 2 minutes. Donc, je pense qu'il faut être un peu sérieux quand on est député de la République. On avance, on fait des propositions, on leur demande d'être, de travailler, voilà. Et puis, ça ne nous empêche pas de ne pas partager à la fois leur vision de la société et les votes qu'ils prennent au niveau national. Et après, juste pour terminer, répondre à votre question sur le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, il me semble, hein, que le département n'envoie pas d'invitation particulière aux parlementaires. Mais j'ai vu Sébastien Pla et Gisèle Jourda se rendre
Donc
au
les
salon.
sénateurs, les...
J'ai vu sur leurs réseaux sociaux, là, ils étaient au salon donc en décalé, parfois avec la présidente du département, parfois seule, à rencontrer des agriculteurs. Enfin, je veux dire, tout le monde, toute la vie ne tourne pas non plus autour simplement du stand au doigt au salon de l'agriculture, et qui était un très beau stand d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'il faut arrêter d'être un peu parano là sur ces sujets, et je pense que les députés au doigt feraient mieux, au lieu d'être parano, de travailler sur leur dossier et d'avancer tranquillement dans leur mandat.
Voilà, bon, voilà pour cette réponse. Pour terminer cette deuxième partie, Alix Soler-Alcaraz, donc vous avez insisté sur la notion d'union nécessaire, avec l'union de la gauche, bien évidemment. On sait que vous l'avez là aussi plus ou moins sous-entendu, il y a eu un grand recul, par exemple, dans ce département, du nombre de militants. Est-ce que cet étiage-là est terminé, ou en êtes-vous, ou êtes-vous dans une phase de reconstruction palpable, si je puis dire?
Oui, parce que en réalité, on a vu une hémorragie très forte du nombre de militants au Parti socialiste entre 2012 et 2017, enfin plutôt entre 2013 et 2018, voilà, parce que ça, c'est toujours un
Un
petit
petit
décalage.
décalage, oui.
Ça a été vraiment très fort sur cette période-là, et on le comprend. Depuis, ça, on stagnait, hein, très clairement. Depuis 2018, on végétait, parce que je pense aussi ce signal n'avait pas été donné auprès des personnes qui nous sont proches, des sympathisants, le signal de tourner une page. Et là, le fait d'avoir sur les 6 derniers mois tourné cette page des années 2010, finalement, là, redonne espoir. Et je suis très heureux de constater que depuis janvier, on a un regain d'adhésion dans notre parti, à la fois sur tous les territoires, que ce soit dans des villes ou dans des villages. Et j'ai bon espoir que l'on soit bien plus nombreux d'ici quelques mois. Voilà.
On marque une deuxième pause, monsieur le premier secrétaire fédéral. On se retrouve dans une troisième partie dans laquelle on va évoquer un peu plus le fond. Et alors, quelles sont les valeurs que vous défendez aujourd'hui, et quels sont vos souhaits éventuellement pour des réformes futures? À tout de suite.